Vous êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un message du club Jésus pour réussir, enregistré lors du culte d'adoration, de louange et d'enseignement hebdomadaire qui y est donné tous les dimanches à 19h. Le club est situé à Sainte-Rita, au-dessus de Alibert, au bord des pavés de Sainte-Rita, à 3 rues de la station MRS en direction de Fifadji. Nous sommes joignables par téléphone au 94 97 07 07 ou au 96 98 36 36. Vous êtes donc les bienvenus au culte de ce soir à 19h qui est d'entrée libre et totalement gratuite. Soyez bénis.
Alléluia.
Amen.
Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle année.
Mais donc, nous m'avons nous payé là.
Et pour ce nouveau départ qui donne au centre Jésus pour réussir. Je suis convaincu qu'avec ce déménagement et cette nouvelle année, le Seigneur fera beaucoup de nouvelles choses dans nos vies. Il a fait énormément de choses l'année dernière. Et je suis convaincu que ces choses-là préparaient le terrain pour les choses qu'il va faire cette année. Parce que le Seigneur a de la suite dans les idées. Nous devons garder à l'esprit d'où il nous a tirés. Et ne jamais perdre de vue où il nous amène. Et nous devons savoir qu'en cours de route, tout ce qu'il fait correspond à où il nous amène. Et ça tient compte de d'où il nous a tirés aussi. Parce que selon là où le Seigneur nous a pris, il y a des choses qu'il faut corriger dans notre vie. Il y a des choses qu'il doit transformer dans notre vie. Il y a des choses qu'il doit briser dans notre vie. Il y a des choses qu'il doit nous faire abandonner. Et tant qu'il n'a pas fini de faire ça, même si lui le veut, il ne peut pas nous bénir comme nous le voudrions. Ce n'est pas qu'il ne veut pas nous bénir, c'est qu'il ne peut pas nous bénir. Je vous ai déjà dit tout au long de l'année que le Seigneur travaille d'abord en nous. C'est quand il travaille bien en nous qu'il peut travailler pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'il peut travailler par nous. Et c'est pour ça dans le Notre Père, il nous dit de prier ceci. Que ton règne vienne. Afin que ta volonté se fasse dans notre vie comme au ciel. Le Seigneur nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tout ce que vous pouvez demander à Dieu existe déjà. Il l'a déjà fait. Jésus l'a déjà accompli à la croix. Donc ce n'est pas quand vous priez que Dieu va faire les choses. Ce n'est pas maintenant que Dieu va créer votre prospérité. À la personne que vous voulez épouser, Dieu ne va pas le créer cette année, elle existe depuis longtemps. L'emploi que vous cherchez ne va pas tomber du ciel, il existe déjà. Donc, ce que Dieu fait pour nous, c'est de nous conduire aux choses qu'il a préparées. C'est de nous révéler les choses qu'il a préparées. C'est de nous connecter aux choses qu'il a préparées. Le problème, c'est que pour te conduire quelque part, il n'y a que deux possibilités. Ou on te prend de force, ou on te convainc de suivre. Si on doit te prendre de force, on doit te briser, te tuer, t'attacher. Et si on doit te convaincre de suivre, on peut te parler et on peut te convaincre de décider avec tes propres pieds et ta volonté de suivre celui qui te
suit.
Ça veut dire que si le Seigneur veut vous conduire dans votre bénédiction, il doit vous faire vous déplacer de là où vous êtes à où vous voulez aller. Le problème de ce déplacement, c'est que vous ne le voulez jamais. Le Seigneur nous dit ceci, que ses voies sont aussi éloignées des nôtres que le ciel est éloigné de la terre. Le chemin que toi tu crois va t'amener au bonheur t'amène souvent tous les jours au malheur. C'est pour ça que tous les jours tu prends des décisions en croyant bien faire et finalement ça te crée des problèmes. Dieu dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Donc tous les jours tu prends des décisions, tu fais des choses, pas parce que tu es bête. Personne n'agit pour avoir des problèmes, mais tu agis en étant convaincu que c'est la voie droite, que c'est la voie de la solution, que c'est ça qui va te donner ce que tu veux. Mais si tu es encore malheureux, c'est que ça ne te donne pas ce que tu veux, c'est que ça ne te crée pas du bonheur, parce que ce qui te paraît droit mène à la mort, la mort de la joie, la mort de la santé, la mort de la prospérité, la mort des relations. Mais tu te détruis tous les jours quand tu fais ce que tu veux.
Mais
ce qui va faire ton bonheur, ce qui va faire ton bonheur, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est pour ça qu'il dit la vie, c'est de me trouver moi. La vie abondante, c'est Christ. Et Christ, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qui vous donne la vie et la vie abondante, c'est de trouver la parole de Dieu. Comme Dieu le disait à Josué, c'est de méditer la parole jour et nuit et de mettre en pratique tout ce qui y est écrit, afin que vous puissiez réussir dans toutes vos entreprises. Mais tant que vous ne vous accrochez pas à la parole, la parole doit être votre boussole. La boussole, c'est que quand on est dans la brousse ou quand on est dans le désert, vous savez, quand nous sommes dans des terrains conquis, dans des endroits habituels, nous avons plein de repères, telle maison de quelqu'un, telle boutique, c'est pour ça qu'à Cotonou, si ce n'est pas maintenant qu'il y a le numéro, chacun dit qu'à côté de ci, à côté de ça. C'est pas comme ça dans d'autres pays. Au Bénin, nous indiquons les choses par rapport à quelque chose d'autre. Mais dans beaucoup de pays, on indique un endroit par rapport à son adresse, 65 rue de tel, point final. Quand vous êtes dans un environnement que vous maîtrisez, vous pouvez évoluer par les repères habituels connus. Mais avec Dieu, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tous les jours, Dieu nous conduit dans des environnements nouveaux, dans des situations nouvelles. Il n'est pas possible de se fier à sa propre logique pour trouver le chemin. Et notre intuition est aussi loin de la vérité que le ciel est loin de la terre.
Donc,
la seule manière de s'en sortir, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu comme une bouée de sauvetage. Tu ne dois pas faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que la parole de Dieu veut. Tu ne dois pas dire ce que tu veux. Tu dois dire ce que la parole de Dieu dit de dire. Tu ne dois pas penser comme tu veux. Tu dois penser comme la parole de Dieu dit de penser. Tu ne peux pas réagir comme tu veux. Tu dois réagir comme Dieu dit de réagir. C'est en pensant comme Dieu, en parlant comme Dieu, en agissant comme Dieu, que tu marches en Dieu. Et si tu marches en Dieu, tu ne peux qu'aller là où Dieu te conduit. Et comme il a pour nous des projets d'espérance avec un avenir. Comme il veut que nous soyons heureux, que nous soyons en paix et en abondance. Comme il veut que nous soyons en bonne santé et prospères à tous égards. Si tu marches vraiment en Dieu, tu arriveras à tout cela en Dieu. Mais le problème, c'est que tu ne marches pas souvent en Dieu. Tu n'agis pas en Dieu. Tu agis selon ta volonté. Tu agis selon ton moi. Or, ton moi n'est pas libre. Ton moi n'est pas souverain. Ton âme est sous l'influence de Satan. C'est pour ça que Paul nous dit de la part de Dieu que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Que ce soit chez les autres ou en nous-mêmes, le combat n'est pas contre la chair. Le combat est contre les esprits qui animent la chair. Quand tu veux faire le bien, tu n'y arrives pas. Et quand tu ne veux pas faire le mal, tu te retrouves à le faire. Ça veut dire que l'esprit du mal est plus fort que toi et te conduit. Et comme nous l'avons dit au réveillon, nos vies sont comme des véhicules, nous sommes comme des voitures. Nous sommes soit conduits par l'esprit satanique, soit par l'Esprit Saint. Personne n'est libre et aucun de nous ne fait ce qu'il veut. Nous faisons ce que Dieu veut ou ce que Satan veut. Rien d'autre. Si tu fais ce que Satan veut, tu ne vas faire ce que Dieu veut. Si tu fais ce que Dieu veut, tu ne vas faire ce que Satan veut. Mais il n'y a aucune autre volonté que les deux là. C'est pour ça que dès que quelqu'un commence à vouloir faire le contraire de la volonté de Dieu, Jésus dit qu'il est animé par Satan. Et un exemple marquant dans la Bible, c'est Pierre. Pierre qui doit empêcher Christ ou qui espérait empêcher Christ d'aller à la croix. Et Pierre pense que c'est un acte d'amour et de bravoure que dit, moi je vais veiller, on ne va pas te crucifier. Humainement, ça allait brillant. Nous voulons empêcher son maître de mourir. On va dire, Pierre veut sauver son maître. Mais Jésus dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, Jésus ne réfléchit pas. Si quelqu'un veut me faire faire le contraire de ce que Dieu a dit, c'est Satan. Qui que tu sois, chaque fois que tu sens que tu es poussé à faire quelque chose que tu sais mauvais, tu es sous l'influence de Satan.
Ce
n'est pas qu'il y a des gens qui sont sous l'influence de Satan et des gens qui sont sous l'influence de Dieu seulement. Hein. Tous autant que nous sommes, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Satan nous réclame pour nous cribler de balles. Il a été tenté Jésus dans le désert. Trois fois, il a voulu tenter la parole en manipulant la parole. C'est l'acte le plus élevé du culot de Satan. La parole. Vit la parole. Et Satan veut mentir à la parole sur la parole. Puis Jésus est la parole. Il est la parole faite chair. Et Satan vient dire la parole faite chair. Que la parole dit de se suicider. Que la parole dit de transformer les cailloux en pain. Le gars qui a le culot de mentir à la parole sur la parole, qui vous êtes pour qu'il ne vous attaque pas?
Hein?
Tous les jours, et sans répit, nous sommes en combat avec Satan. Et ce combat-là se passe dans notre esprit. Parce que même quand Jésus l'a vaincu, en répondant trois fois, mais il est aussi écrit que la Bible nous dit que Satan s'est retiré en attendant un moment meilleur pour venir. C'est-à-dire qu'il ne va jamais capituler tant
qu'on a.
Quand tu l'as vaincu tout de suite, il s'en va et il guette la prochaine occasion de revenir. Et il reviendra toujours. Mais il ne revient pas comme un monstre vilain avec des poignards ou bien des épées. Il vient toujours comme votre meilleur ami. Imagine, on veut te tuer. Et quelqu'un dit, jamais tu ne vas mourir, je suis là, je vais te défendre. Mais ça n'a pas empêché à Jésus de dire, arrière de moi, Satan. C'est comme ça que tu es dans des situations. Quelqu'un te propose l'affaire en or, on va faire de l'argent en vendant des médicaments périmés, c'est pas grave. Même si les gens sont un peu malades, bon, on va les guérir à l'hôpital, viens, on va vendre ça. Ça a l'air d'une affaire en or. Arrière de moi, Satan. Tu es en train d'attendre Dieu depuis longtemps pour ton mariage. Et Dieu t'a protégé. À 6 mois que Dieu t'envoie l'homme de ta vie, un souhaito professionnel va apparaître dans ta vie. C'est lui qui, à force de t'acheter des cocaïnes, des fusils, va te dire qu'il t'aime. Et si tu n'es pas capable d'écouter la voix du Saint-Esprit et de lui dire, arrière de moi, Satan, tu vas tomber dans le panier en croyant que c'est la meilleure opportunité de ta vie.
Mais je crois que Et pour toi?
C'est que tout ça, c'est des opportunités. Dans tout ça, tu crois que Dieu est en train de te bénir. Et ça, c'est Satan. Quand Sarah a dit à Abraham, d'aider Dieu à avoir l'enfant de la promesse par Agar, s'il connaissait suffisamment Dieu, il aurait dû dire, arrière de moi, Satan.
Vous levez,
vous sentez des envies, par exemple, c'est le jour d'aller au culte. Tu te dis, mais tu es fatigué, culte, bon, en tout cas, un culte de moins, un culte de plus, ça ne change rien. Reste à la maison, repose-toi, c'est lundi. Arrière de moi, Satan! C'est à ce jour-là que la question que tu as posée à Dieu, on va y répondre.
Et il a zandé sous. Le bol n'est pas blisé. Nous, on doit dire, on met la rome là, il faut qu'il y ait un petit peu de la vie pour la vie bien.
Mais pour tenter, Eve dit, regarde le fruit. N'est-il pas beau? N'est-il pas bon? Satan vient toujours disant, regarde comme c'est beau. Il vient jamais dire, suivez-moi pour vous perdre. Attention. La foi, c'est de rester vigilant seconde par seconde. Tu décides de prier. C'est à ce moment-là que le sommeil arrive. Arrière de moi, Satan. Tu décides de prier. Et toute la journée, comme tu sais que tu veux prier, tu ne veux pas manger pour ne pas te sentir lourd. Et Satan sait que Dieu a prévu que ce soir-là, il va t'exaucer terriblement. Qu'est-ce que Satan va faire? Premièrement, il envoie un ami qui dit, viens aujourd'hui, c'est moi qui reviens, on va aller sur l'espace du stade d'amitié, tu manges tout ce que tu veux, tu bois tout ce que tu veux, c'est moi qui paye. Il va te faire foncer dans la nourriture. Et quand tu vas te lever là, tu dis, maintenant je vais aller prier. Tu es amorti, tu ne peux plus prier. Pour ce jour-là, Satan, avec juste peut-être un poulet, il a désactivé tes bénédictions.
Et
le soir, tu as dit, Seigneur, je te rends grâce. Tu m'as fait payer gratuitement à manger aujourd'hui. Et si tu échappes à ça, il enverra peut-être ton voisin te lorgner, t'insulter, et tu vas t'énerver, tu vas te disputer avec lui, ton corps va battre, tu seras en colère. C'est fini, tu n'as plus la concentration, le Saint-Esprit n'est plus là quand il y a la colère. La prière de ce soir, tu vas dormir dessus. Voilà, c'est ce jour-là, au moment où tu veux prier, quelqu'un va venir, tu viens prier avec toi. Tu as dit non, celui-là c'est petit, il ne sait pas prier. Et puis tu vas entrer dans des considérations orgueilleuses sur la prière. Pendant ce temps, finalement, même quand vous priez, vous n'êtes plus accordé, vous n'êtes plus dans le même esprit. Il vient encore de désactiver tes bénédictions. Satan ne dort pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient comme Dieu, mais il est quand même fort. Donc l'enjeu de la foi, de la vie, parce que je vous rappelle que cette année, c'est l'année de la communion avec le Saint-Esprit. L'enjeu de cette année, ce n'est pas les actes religieux.
Ce
n'est pas d'aller prier ponctuellement. Ce n'est pas les cérémonies religieuses.
Ce n'est
pas les démonstrations de force religieuse.
Ce n'est
pas les agitations religieuses. L'enjeu de cette année, c'est que dans le calme et la tranquillité, vous soyez en permanence en Dieu. Dans les plus petits détails de votre vie, vous devez vivre en Dieu. Quand vous avez à penser, assurez-vous que vous n'êtes pas en train de penser, mais que vous êtes en train de laisser Christ penser en vous. Quand vous voulez parler, arrêtez-vous toujours pour vous demander, mais ce que je veux dire là, c'est moi qui veux parler ou c'est Christ qui parle à moi? Si Christ était là, est-ce qu'il serait content de ce que je dis? Est-ce que je veux ouvrir ma bouche pour dire c'est ce que Christ veut dire en moi, c'est ce que le diable me fait dire? Vous devez devenir un chasseur qui guette Satan partout dans les moindres coins et recoins de votre vie pour le déloger. Et ça prend une grande humilité. Ça prend l'humilité de se remettre en cause. Des fois, vous allez vous retrouver en train de vouloir faire quelque chose. Et le Saint-Esprit va vous dire, ça là, tu déconnes. Ce que tu fais là n'est pas bon. Mais il y a deux manières de réagir. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est fidèle. Et il veille à nous instruire. Il nous montre le chemin que nous devons prendre. Son esprit est là en nous pour nous conduire dans toutes choses. Mais tout le monde ne veut pas l'écouter. Or, plus vous l'écoutez, plus il vous parlera. Moins vous l'écoutez, moins il vous parlera. C'est toi qui décides de conseiller quelqu'un. Chaque fois que tu le conseilles, tu ne suis jamais tes conseils. Tu vas te fatiguer à le conseiller. Si chaque fois que quelqu'un a des problèmes, il t'appelle, il te pose des questions, il lui donne des conseils, il ne fait jamais ce que tu dis, et il a toujours des problèmes, est-ce que tu vas continuer de le conseiller? Mais si quand quelqu'un a des problèmes, il vient te voir, il te demande conseil, tu le conseilles, il suit ton conseil, et cela le sauve, tu es encouragé, tu es tout le temps disponible pour conseiller cette personne. Le Saint-Esprit est en vous. Si vous êtes né de nouveau, c'est sûr que le Saint-Esprit est en vous. Et il n'est pas paresseux. Il ne se fatiguera pas de vous parler. Et il vous parle toujours. Mais vous ne l'écoutez pas souvent. Pourquoi vous ne l'écoutez pas? Parce que vous êtes trop orgueilleux. Parce que nous sommes trop orgueilleux. Et notre orgueil se manifeste sous différentes formes. La première forme de cet orgueil, c'est que nous sommes tellement accrochés à nos objectifs, à nos projets, que nous ne voulons plus entendre ce que Dieu en pense. Nous ne devons pas faire des projets, demander à Dieu de les bénir. C'est Dieu qui est le chef et nous les serviteurs. C'est lui qui est le commandant et nous les soldats.
C'est ce
qu'on appelle éternel, le Dieu des armées. Mais dans quelle armée avez-vous jamais vu un soldat qui donne les consignes sur ce qu'il faut faire au commandant et au colonel? Vous
n'avez
jamais vu un soldat dire: colonel, aujourd'hui, il faut qu'on arrête telle personne, qu'on fasse telle mission, qu'on fasse ci, envoie les munitions pour faire ça. C'est comme ça? Même s'il met des formules de politesse, oui, colonel, qui vous plaisent, de bien vouloir mettre, est-ce que c'est le soldat qui donne des instructions?
C'était clair. Lobo so javiona site buna te do gbede bu me ble gbede bu sisi gbede bu buna don kan to je lewe na blogbo gbede.
C'est le commandant qui fixe ses objectifs. C'est lui qui dit ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, quand est-ce qu'on doit le faire.
Ewe no don we na wa ne na blogbo ko te no na blogbo.
Et quand il dit qu'il faut faire quelque chose, il n'a même pas besoin qu'on demande les moyens. Il dit en même temps: pour le faire, prenez tel et tel moyen. C'est lui qui décide. Et vous vous exécutez. Les chrétiens sont des soldats. Même quand on parle de l'évangélisation, Jésus nous dit que nous sommes les ouvriers. Par opposition au maître de la moisson. Le maître, c'est le propriétaire. C'est lui qui commande. C'est lui qui fixe ses objectifs. C'est lui qui donne les moyens. Si ça marche, c'est son problème. Si ça ne marche pas, c'est son problème. C'est lui qui te recrute. C'est lui qui te limoge. C'est lui qui te nourrit. C'est lui qui te salarie. Toi, en tant qu'ouvrier, tu n'as qu'à être disponible pour obéir. Et être le plus malléable possible. En partant, on ne veut pas savoir qu'est-ce qui t'empêche de l'exécuter. Il ne veut pas savoir si tu es fatigué, si tu es occupé. Il s'en fout de ce que tu préfères. La seule qualité qu'on attend d'un collaborateur, c'est la disponibilité et la soumission totale sans négociation. Alors, ça, c'est les simples collaborateurs. Mais si le Seigneur est Seigneur, si lui est Seigneur, c'est que toi, tu es un esclave, tu es sa propriété. Pourquoi ta relation avec lui consiste tout le temps à lui donner des ordres, comme si un soldat donne des ordres en général? Mais regardez vos vies de prière. Qui commande? C'est toi ou bien c'est Dieu? Rappelez-vous vos dernières prières. Qui donnait les ordres? Qui donne les ordres? C'est vous qui voulez, je veux. Est-ce qu'il t'a demandé de vouloir? Excusez-moi, mais le chrétien n'est pas fait pour vouloir des choses. Ce n'est pas qu'on ne doit rien vouloir. Mais on n'est pas fait pour vouloir et demander à Dieu de donner. Les disciples ont demandé clairement à Jésus. Enseigne-nous comment prier. Et il leur a dit le Notre Père. Dites-moi dans quelle phrase du Notre Père Jésus a dit que celui qui est en train de prier doit assumer ses besoins. Est-ce qu'il y a quelque part où il a prévu ça? Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. C'est ce que je suis en train de dire. C'est tout ce que Dieu attend de vous. Que vous l'autorisiez à régner. Que vous lui dites, je suis disponible. Donne tes ordres, je les exécute. Que ta volonté soit faite. À vos ordres, commandant. C'est ça que ça veut dire. Que ta volonté soit faite, c'est ce que le militaire vient de dire, à vos ordres. Combien d'entre vous êtes prêts à dire à vos ordres à Dieu? Vous ne voulez pas des ordres de Dieu. Vous avez vos projets. Et même si vous mettez la forme diplomatique autour, vous donnez des ordres à Dieu. Si une armée est commandée par les soldats, ça va où? Et toute la frustration de votre vie chrétienne vient de ça. Vous croyez à tort. Parce que vous savez, pour commencer à prier là, il faut commencer à adorer Dieu. Dans le Notre Père, c'est ça qui correspond à que tes noms soient sanctifiés. C'est-à-dire quand tu médites les noms de Dieu, tu te rappelles qui Dieu est, tu adores en fait Dieu. Cela te permet de te rappeler à qui tu parles. De te rappeler à qui tu parles va déterminer comment tu vas lui parler. Quand dit notre Père déjà, ça veut déjà dire que c'est un Père. Ça veut dire papa. C'est mieux que chef. C'est mieux que roi. C'est mieux que président. Mon papa, c'est quelqu'un avec qui je suis intime. Mon papa, quand je demande à le voir, je dis, c'est j'aime mais aussi en même temps. Mon papa, il ne peut pas me jeter. Mon papa, à moi qui n'a pas ce qu'il me faut, il est toujours heureux de me bénir. Mon papa, c'est lui qui m'a créé. Donc à la limite, ma réussite est autant sa fierté que la mienne. Mon papa est heureux de me voir réussir. Mon papa sait avant moi de quoi j'ai besoin. Et il a préparé. Il y a des écoles maternelles dans lesquelles il y a tellement de files d'attente que quand les femmes tombent enceintes, elles vont réserver, elles font le caca, elles vont réserver la place dans l'école.
Suivez mon regard.
Il y a des gens, dès que l'enfant n'a écrit un compte d'épargne, il commence à épargner dedans pour le jour où l'enfant doit aller à l'université, on peut lui payer l'université. Combien de parents n'achètent pas des terrains qu'ils vont pouvoir vendre un jour pour financer l'étude de leurs enfants?
Mais comment? Bon, mais dis-toi que est-ce
que tout ça là c'est parce que l'enfant est venu au monde et il a réclamé tout ça? Quel enfant demande tout ce que je viens de citer
là?
Qu'est-ce qu'un enfant demande? Bonbon, biscuit, yaourt, chocolat, vélo, ça là l'amène loin. Quand tu donnes bonbon à l'enfant, il a son problème réglé. Regardez bien. Prenez une journée et ne faites à votre enfant que ce qu'il demande, ne lui faites rien d'autre. Vous allez voir s'il ne va pas mourir avant la fin de la journée.
Si vous êtes malheureux, c'est pas parce que Dieu ne vous exauce pas. C'est parce qu'il vous exauce, parce que vous demandez ne plus jamais régler vos problèmes. Et si l'enfant demande bonbon tous les jours, tu lui donnes, au bout de 3 mois, il va aller chez le dentiste, on va arracher ses dents. Donc il a encore fait mal.
Hein?
Et Dieu n'est pas un papa irresponsable. Il sait mieux que vous ce qu'il vous faut avant de vous créer. Pourquoi vous êtes pressé d'exprimer vos besoins?
Parce
que vous dites, mais Dieu ne sait pas ça. Tu crois que Dieu ne sait pas que tu veux un mari? Il ne sait pas que tu veux une femme ou bien. C'est toi qui vas l'informer. C'est toi qui vas l'informer dès que tu cherches mari. Est-ce que Adam a dit à Dieu qu'il voulait se marier? Non seulement il n'a pas demandé de femme. C'est Dieu même qui a vu qu'il était seul et que ce n'était pas bon. Et Dieu n'a pas changé. Quand Dieu voit ce qui n'est pas bon, il le sait avant toi. Et quand Dieu a voulu donner mari, ou plutôt femme, Dieu l'a endormi. Dieu l'a anesthési. Ça veut dire qu'il n'a rien fait dans le fait qu'on lui a
donné.
Son avis n'a pas compté. Dieu ne lui a pas demandé de prier. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas choisi. Il n'a pas fixé de critères. Il dormait. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si Adam dormait et il n'a pas parlé, et Dieu a vu qu'il était seul et que ce n'était pas bon, et Dieu lui a donné une femme, pourquoi toi tu penses que Dieu a vieilli, qu'il est fatigué, il a de l'amnésie, il a Alzheimer, donc maintenant il n'a plus certains problèmes de ses enfants? Donc si toi tu ne cries pas pour dire que tu as ton mari, il va oublier que tu as ton mari. Il a vieilli ou bien? Maintenant il ne se rappelle plus de tout. On dit Dieu qui sait tout.
Et dans ma way, tu be,
si il sait tout, pourquoi il ne saura pas ce que toi tu as?
Ni tu nous be, tu ma, tu nous,
Dieu qui peut tout.
Ma way, tu peux nous be,
si il peut tout, c'est toi qui ne peux pas apporter.
Dieu
qui est partout.
Bon, ma way, de fi,
si il est partout, ton mari ne peut pas trouver.
Ni ma way, de fi, bi, de ma, si, moi, be, fien, yon, de ma, si,
moi, bon, souci sur certains problèmes, pourquoi vous ne faites pas confiance à Dieu?
Le bon, li, bon, mi, tolo, tabade, le, Dieu, non, khle, de, mi, kuro, kaja,
vous ne croyez pas que Dieu est Dieu.
Mi, non, di, non, ma way, ma way.
Et donc vous le traitez comme moins que Dieu en disant qu'il est Dieu. Si tu crois que Dieu est ce qu'il est, pourquoi tu penses que toi tu dois l'informer de ce que lui sait avant toi? Il dit avant que tu rentres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et maintenant toi tu nais. Tu dis Dieu regarde, j'ai un bouton ici. Ah Dieu regarde, j'ai le menton trop long. Dieu regarde, j'ai les oreilles trop larges. Lui ne savait pas ça. Rappelez-vous qui est Dieu. On ne peut pas invoquer Dieu sans croire en Dieu. Et si on croit en Dieu, on doit laisser Dieu faire son travail. Donc le premier niveau d'orgueil, c'est de penser qu'on est tellement meilleur que Dieu qu'on doit l'aider à faire son boulot. Vous aidez Dieu en lui rappelant ce qu'il risque d'oublier ou bien? Parce que votre mémoire est meilleure que la sienne. Vous l'aidez en lui précisant quel genre de mari ou de femme vous voudriez. Dans le cas où il ne serait pas très brillant, vous lui donnez quand même quelques conseils pour qu'il ne se trompe pas ou bien? Vous voyez le niveau d'orgueil que nous avons sans
doute.
Où est-ce que Dieu dans la Bible vous a dit que c'est vous, il a besoin de vos conseils pour vous aider? Il sait tout. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Cette année, lors de votre communion avec le Saint-Esprit, revenez toujours à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit votre alpha et votre oméga dans la foi. Quand vous priez Dieu là, mais rappelez-vous le Dieu dont nous parlons. Qu'est-ce que Dieu a dit de ce Dieu là lui-même? Qu'est-ce que la parole dit de ce Dieu là? Et vu ce que la parole dit de ce Dieu là, est-ce que votre comportement avec ce Dieu cela est normal? Est-ce qu'il a vraiment besoin de votre aide? Est-ce que le fait que vous ne mangez pas change quelque chose à sa capacité? Nous ne devons pas croire que Dieu a besoin de notre aide. Il n'a pas besoin de notre aide. Il a besoin que nous demeurions en lui. Il a besoin que nous le laissions régner sur nous. Si notre vie est une voiture, il dit je me tiens à la porte. Je fais cor. Tout ce que je veux. Ouvre la portière et permets-moi de m'asseoir. Quand je m'assois comme chauffeur là, ce que je fais à la voiture ne peut pas conseiller le chauffeur sur comment conduire. Vous imaginez une voiture qui va vouloir me dire comment je dois conduire ou je dois l'amener? Vous devez laisser le volant de votre
viature.
Sachant que ce qu'il veut pour vous est meilleur que ce que vous ne pourrez jamais vouloir. Il connaît ce qu'il vous faut et quand il vous le faut. Dieu n'est jamais en retard.
Vous
voyez, il faut toujours revenir à la parole. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est l'ignorance de la parole. Parfois même, j'écoute des serviteurs de Dieu et j'ai envie de pleurer. Je ne les juge pas parce que nous ne devons juger personne. Mais j'ai envie de pleurer parce que je vois qu'ils parlent avec leur intelligence et non pas par la parole. Et vous voyez même des serviteurs de Dieu qui rêvent en disant oui, après tout, c'est logique. Qu'est-ce que la logique vient chercher avec Dieu? Il y a des communautés chrétiennes où on peut passer un an sans jamais parler de la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont rien. Nous ne pouvons rien. Non, moi je ne peux rien. Et je ne suis rien. Je suis rien qu'une marionnette. Une marionnette du Saint-Esprit. Quand il dit de lever la main, je m'en fous de ce qu'il veut faire. Je lève la main. Si celui qui est devant moi est guéri, c'est le problème de Dieu. Il n'est pas guéri, c'est le problème de Dieu. S'il est guéri, c'est Dieu qu'on applaudit. S'il n'est pas guéri, c'est pas moi qui suis honnête, c'est pas moi qui veux le guérir. Mais il y a beaucoup de ministères, vous allez voir, les serviteurs de Dieu veulent porter l'église sur leurs frêles épaules de
gringalets.
Conclusion, ils ont des cheveux blancs trop tôt, ils vieillissent trop tôt.
Cheveux blancs, quel est Midora?
Quelqu'un a mal à la tête, il appelle son pasteur. Moi, je rends grâce à Dieu depuis que j'ai commencé le ministère. Personne ne m'a jamais appelé ni déplacé pour ce genre de futilité-là. Mais quand je regarde bien, et pour le groupe d'intercession, j'ai donné mon témoignage, ça devait être avant-hier nuit. Je vous invite au passage à prier beaucoup pour le groupe d'intercession du ministère. Parce qu'il y a des gens que le Dieu a sélectionnés qui sont en train d'intercéder tous les jours. Ils intercèdent pour que Dieu se glorifie dans vos vies, dans ce ministère, dans ce pays. Donc même quand vous n'êtes pas capable de prier, priez pour eux. Parce que Dieu les a appelés, les a oints, je suis sûr, va les utiliser puissamment pour chacun de vous. Mais quand je vais faire mon témoignage, et c'est mon plus grand témoignage de l'année 2014, mais mon témoignage, c'est ce que Dieu fait dans vos vies. J'ai encore reçu les témoignages du rapport de Porte Nouveau. Les miracles qui se produisent à Porte Nouveau, à Paracou, ici, on a eu des milliers de miracles cette année, au jour, chaque jour. La plupart des membres de ce soir ont des témoignages. Et ce n'est pas des témoignages théoriques où on invente quelque chose parce qu'il faut venir parler.
Mais ce qui me réjouit le plus, ce n'est pas seulement ce que Dieu a fait dans vos vies. C'est ce que Dieu a fait sans que je ne sois même informé, sans que je n'ai besoin d'intervenir. Ma plus grande joie, c'est que Dieu a confirmé ma conviction que je n'ai rien à foutre dans votre bénédiction, c'est Dieu qui bénit. Dieu a démontré encore cette année que pour peu que je fasse mon boulot qui est de vous donner la parole s'occupe du reste. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais pour revenir à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle
est sortie.
Et tout a été fait avec la parole, rien n'a été fait sans la parole. Et Dieu appelle à l'existence des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient encore à la parole. Cela veut dire que même quand vous priez au nom de Jésus, vous priez au nom de la parole parce que Jésus, c'est la parole. Et Jésus dit, vous découvrirez la parole et la parole vous affranchira. Beaucoup de serviteurs de Dieu veulent affranchir les gens pour les conduire à la parole. Regardez bien. On veut affranchir les gens. On veut guérir les gens. On veut sauver les gens. On veut bénir les gens pour les amener à l'église. Pour les amener à la parole. C'est faux. Jésus n'a jamais dit ça. Il dit, vous découvrirez la parole. Et c'est la parole. Et une fois que vous l'avez découvert, vous affranchira. Vous affranchira du chômage. Vous affranchira de la pauvreté. Vous affranchira du célibat. Vous affranchira de la maladie. Vous affranchira des soucis. C'est la parole, pas moi. Et cette année, Dieu vous a démontré. Parce que pour moi, ça a toujours été clair. Vous allez voir que moi, je ne fais de soucis pour personne. Même si tu m'appelles et que tu es en train de mourir, je ne me fais aucun souci. Je dirais, tu es chrétien. Non, je vais faire mon boulot, tu as donné ta vie à Jésus. Donc, Dieu a commencé un boulot dans ta vie. S'il a commencé, c'est qu'il achèvera. Si tu meurs, c'est que c'est le meilleur qui devait arriver pour toi. Donc, quand tu m'appelles, je dis que ta volonté soit faite, Seigneur. Tout ce qui peut empêcher ta volonté, je le réponds au nom de Jésus. Je libère ta volonté dans sa vie. Je paralyse toute volonté contraire. Fortifie-le. Donne-lui d'être connecté à toi. Et qu'il agisse selon toi. Je prie en langue. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut dire d'autre. Le Saint-Esprit parle. Et moi, je t'oublie. Mais Dieu ne t'oublie jamais. Vous devez comprendre ça. La parole. L'église de notre pays est pauvre parce que la parole est méprisée. Nous avons besoin d'un réveil de parole. Que les chrétiens soient équipés de l'épée du Saint-Esprit. Le casque du salut. La cuirasse de justice. Le bouclier de la foi. À la limite, les chaussures que donne le zèle de la bonne nouvelle. La ceinture de vérité. Toutes ces choses-là, ce sont des armes défensives. C'est des outils de Dieu pour se protéger. Le salut te protège de la mort. La cuirasse de justice fait que tu es éligible à la grâce de Dieu. Le bouclier de la foi te permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Le fait d'annoncer la bonne nouvelle est une chaussure qui te permet de marcher sur les choses blessantes sans te blesser. La ceinture de vérité fait que quand Satan va te faire courir devant les problèmes, ton patron ne va pas tomber pour que tu deviennes nu. Si tu n'as pas de ceinture, quand tu commences à courir, ton pantalon va tomber. Et tu vas être nu. Donc Dieu te dit que si tu attaches la vérité comme ceinture, tu n'oublies jamais la vérité. Quelle que soit la course que tu feras, tu ne vas pas te trouver nu. Mais de toutes ces âmes-là, on ne voit que la sécurité et la protection. La seule arme offensive d'attaque, c'est l'épée. C'est l'épée du Saint-Esprit. C'est avec ça qu'on attaque. Le chrétien qui méprise la parole est comme un footballeur qui joue la défense pendant 90 minutes. Et tu passes tout ton temps à éviter de prendre des buts. C'est sûr que tu vas prendre avant la fin du match. La meilleure défense, c'est l'attaque. Le chrétien qui attaque Satan, c'est vrai qu'il y a plus d'accrochage. Il y a plus de secousses. Mais globalement, il a plus la paix que les autres. Dans tous les cas, quand tu attaques Satan, quand tu attaques, il va t'attaquer. Donc, quitte à ce qui est confrontation, donc, quitte à ce qu'il y ait confrontation, bon, que ce soit confrontation parce que j'attaque et pas parce que lui m'attaque. Vous devez attaquer. Vous devez avoir l'épée de la parole tout le temps à la main. De nuit et de jour. Vous ne devez manquer aucune occasion. Dégainer. Moi, je me considère aujourd'hui comme un Lucky Luke.
J'ai
le pistolet de la parole.
Oh,
pour tout et rien, je dégaine, je tire.
Et y'a quoi, c'est pas?
Écoutez, la parole est trop puissante, on la gaspille. Moi, depuis que j'ai découvert ça, je m'amuse à utiliser la parole. Allez, je suis comme un joueur qui se balade, qui tire sur les choses qui bougent. Mais c'est ça que nous sommes. Quand vous êtes en train de circuler, vous voyez un fou. Si vous n'êtes pas un chrétien, vous ne pouvez rien faire pour lui. À moins de le prendre et d'aller le mettre dans un asile. Ils vont le droguer. Et ils vont le tuer à petit feu en disant qu'ils ont tout le soin. À part ça, tu ne peux rien faire. Mais si tu es chrétien, tu gardes ta moto. Tu te mets là. Tu fais comme ça. Et tu commences à prier en langue. Tu bombardes. Jusqu'au moment où tu as senti que maintenant ça va. N'attends pas de voir qu'est-ce qui se passe. Dieu ne dit pas que si tu vois, tu crois. Et si tu crois, tu verras. Tu bombardes. Tu crois que l'esprit qui est de Dieu en toi vient de rencontrer quelqu'un, un fou de Galdara, il vient de le débarrasser. Tu prends ta moto, tu t'en vas. En chemin, tu loues Dieu. Je viens de délivrer quelqu'un. Le Saint-Esprit est sur moi. Pour délivrer les captifs. Pour délivrer les opprimés. Alléluia, il y a un délivré aujourd'hui. Tu vas dans ta moto à finir. Si Dieu voulait le délivrer, tu viens de délivrer quelqu'un. Tu viens de faire quelque chose qu'aucun docteur ne peut faire, qu'aucun infirme ne peut faire, que l'argent ne peut pas faire. Si ça n'a pas marché, et que Dieu ne voulait pas le délivrer, où est ton problème? Toi, tu as fait ton travail. Tu vois quelqu'un qui fait un accident. Arrête-toi. Prophétise. Il n'est pas blessé. Il n'est pas malade. Il n'a aucun autre brisé. Il n'aura pas d'hémorragie. S'il doit être soigné, laisse-le arriver rapidement. S'il a besoin d'argent, il en a. S'il n'en a pas, tu suscites quelqu'un pour payer. Il ne manque de rien. Il ne garde aucune séquelle. Tu sauves son corps. Mais tu sauves son esprit. Il est gagné pour le ciel. Je l'ai prophétisé. Je sais que cela s'accomplit. Amen. Tu prends ta moto, tu t'en vas. Tu n'as même pas besoin de le toucher.
Au suivant.
Et tu te balades dans la vie comme ça. Quand tu vois quelque chose, tu t'arrêtes. Tu dis papa. Faites l'expérience, vous me direz. Vous allez vous sentir comme un Superman. Vous voyez les films de Superman là, comment les gars sautent de mieux avec eux. Nous sommes pire que des Superman. Tu vas rendre visite à quelqu'un dans l'hôpital. Tu vas aller égoïstement aller voir ton malade. Tu parles pour lui, tu ne pries même pas pour lui. Tu fais semblant d'être triste pour lui. Bon, le temps de sortir de là, tu continues tes activités.
Mais ton raison, direct. Non, vilain.
Si tu vas dans un hôpital, Dégaine sur toutes les maladies qui sont là. Rentre de chambre en chambre. Je n'ai rien. Je suis venu prier pour vous. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour libérer les malades. Pour libérer les opprimés. Pour délivrer de l'esprit de mort. Pour restaurer vos vies. Vous voulez bien prier? Donnez-moi vos mains.
Et tu te balades. Ça ne te coûte rien. Tu n'as pas besoin d'argent.
Christ veut que nous soyons sa carapace. C'est-à-dire, il veut vivre en nous. Le monde ne voit pas Dieu, pourquoi? C'est notre faute. Pourquoi le monde voit Satan? Vous connaissez quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Satan? Vous n'avez jamais évangélisé puis quelqu'un vous a dit Satan n'existe pas? Pourquoi tout le monde croit en Satan? Ils ont vu Satan? Qui parmi vous a déjà vu Satan? Mais pourquoi vous croyez que Satan existe? Mais parce que vous voyez ses œufs. À moins d'être aveugle. À moins d'être au ciel déjà. Satan vous a déjà prouvé beaucoup de fois qu'il est vivant. Et donc tu finis par croire en lui. Pourquoi tu as du mal à croire en Dieu? Parce que tu n'as pas vu assez de démonstration de la puissance de Dieu. Pourquoi tu n'as pas vu la démonstration de la puissance de Dieu? Parce que le monde attend toujours, avec un ardent désir, la révélation des vrais enfants de Dieu. Ça veut dire quoi en français? Le monde frotte les yeux, il cherche partout. S'il va avoir quelque chose qui ressemble à un enfant de Dieu. Le monde cherche Dieu. Il veut des gens qui ont le pouvoir de Dieu. Des gens qui vont faire des miracles au nom de Dieu. Des gens qui ont l'humilité de Dieu. Des gens qui ont l'amour de Dieu. Des gens qui ont le cœur de Dieu. Il veut voir à travers vous Dieu en action. Si chacun de vous qui êtes ici, si chacun de vous qui m'écrivez, vous pouvez ne pas vivre que pour vous, mais vivre aussi pour les autres. Si vous pouvez vous considérer comme un chargé de mission de Jésus, comme un ambassadeur de Jésus, et partout où il est, il fait ce que Jésus aurait fait, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Si vous pouviez faire ça, vous allez voir qu'autour de vous, les gens commenceront à croire à Dieu. Ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Je suis surpris. Quand je vois certaines personnes me dire, Dieu est avec toi, Dieu est grand. Ce n'est pas des chrétiens. Parfois même c'est tout le contraire. Mais qu'ils te disent, petit, Dieu est avec toi. Ça, ils ont vu quelque chose. Le monde veut voir quelque chose. Et vous avez fait quelque chose. Ça ne vous coûte rien. On n'a pas besoin de force pour le soulever. Pas besoin d'huile à monter ni d'essence. On a juste besoin d'ouvrir la bouche. Au lieu d'aller vous asseoir avec vos amis de niaiser sur la crise économique ou sur la situation politique du Bénin, ou de grogner sur les radios,
monsieur le journaliste,
de vous asseoir sous les arbres pour bavarder, au lieu de faire ces niaiseries-là, utilisez votre bouche comme une épée pour Dieu. Distribuez le bonheur. Soyez des anges en déplacement. Le problème, c'est quoi? Quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de vivre la vie de Dieu. Donc Dieu est avec vous. Mais là où Dieu est, qu'est-ce qui va vous manquer? Vous n'avez jamais vu des soldats d'une armée sérieuse mourir de faim à la guerre? Quand des soldats sont à la guerre, le général pourvoit à tous leurs besoins
sur
le fond. Quand vous allez lire les actes des apôtres, tout l'évangile, vous verrez que les apôtres ne priaient jamais pour leurs besoins matériels. On n'a jamais vu quelqu'un qui est venu les voir, ils ont prié pour qu'ils trouvent mari ou qu'ils trouvent femme.
Surtout au nom de Jésus.
Les gens ne priaient pas pour leurs besoins. Ils priaient pour la communion avec le Saint-Esprit. Ils priaient pour connaître Dieu. Ils priaient pour aimer Dieu. Ils priaient pour se consacrer à Dieu. Ils priaient pour avoir l'onction. Ils priaient pour que la fraternité soit entre eux. Ils priaient pour recevoir la sagesse. Ils priaient pour être en Dieu. Ils priaient pour que Dieu soit en eux. Mais quand ça s'est fait, la Bible nous dit que tout le reste les suivait. La bénédiction les suivait. Les miracles les suivaient. Dieu veut être là. S'il est là, tout ce que vous attendez sera là. Je voudrais vous le redire. Et ça va être notre message toute cette année. 2015, c'est une année extraordinaire. C'est une très très grande année. Je suis déjà en train de voir si plusieurs font les prémices de cette année-là. C'est une année extraordinaire, une année de puissance, une année de miracles. C'est une année qui va nous étonner, c'est une année qui va nous ébahir, parce que non seulement nous allons voir des miracles, nous allons être bénis, mais c'est que nous allons être surpris de comment nous sommes bénis. D'habitude, vous forcez beaucoup pour avoir les choses. Et rien ne vient. En 2015, vous êtes en train de dormir. Quand les choses viendront. Et vous allez avoir honte de comment ils sont arrivés. Mais pour que les choses arrivent comme ça, vous n'avez qu'une chose à faire. Du moment où vous vous réveillez, jusqu'au moment où vous vous endormez, soyez en Dieu. Vivez en Dieu. Pensez comme Dieu. Parlez comme Dieu. Agissez comme Dieu. Et si vous êtes en train d'agir, par exemple, tu veux gifler petit, ou bien même tu l'as déjà giflé, et le truc te dit, c'est un péché. Hein. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Demande-lui pardon. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es vraiment en communion avec le Saint-Esprit, dis qui viens. Toi-même, pourquoi tu as fait ça? Je ne devais pas te gifler. Je ne devais pas te gifler. Je te demande pardon. C'est-à-dire que tu obéis autour de Saint-Esprit. Tu te trompes. Il t'interpelle net. Ne fais pas comme si tu n'as pas entendu. Il sait que tu as entendu. Et il sait quand tu as entendu. Fais pas le malin. S'il te reprend, immédiatement on saisit toi. S'il te demande de demander pardon, immédiatement demande pardon. Le Saint-Esprit m'a dit, ne me perds pas du terrain en 2015. Hey, règle-moi les petits détails là. Parce que j'ai des choses sérieuses à faire. Je voudrais vous le dire. Le Saint-Esprit est pressé. Il va faire des choses terribles. Règle-lui les petits détails. C'est pas l'année où il faut niaiser à ne pas pardonner quelqu'un. La personne là, je ne vais jamais le pardonner. Ça fait mal, je ne vais pas le pardonner. Le Saint-Esprit se dit, il ne faut pas me perdre du temps dans ces niaiseries là. Ne pas pardonner quelqu'un, c'est une niaiserie. Tu veux perdre du temps dans cet esprit pour rien. Parce que tu n'as pas pardonné, lui ne peut pas te pardonner. Dans le notaire, après avoir posé les requêtes, pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc si tu n'as pas pardonné, tu n'es pas éligible au pardon. Et si Dieu ne te pardonne pas, il ne peut pas te bénir. Donc quand Dieu veut te bénir, tu dois lui débarrasser rapidement les obstacles comme le non-pardon dans ta vie. Écoutez-vous bien. Ne vous fatiguez pas beaucoup jeûner cette année. Ne vous fatiguez pas à faire des rituels compliqués cette année. Il n'a pas besoin de vos efforts, de vos agitations. Il a besoin que tu lui fasses confiance, que tu le connaisses, que tu l'aimes, que tu demeures en lui, que tu manifestes l'amour gratuit pour les autres. Et manifeste les fruits du Saint-Esprit. Et reste naturel. Ton seul souci doit être, je ne vais pas lâcher Dieu, quoi. Tu dois le marquer à la culotte. Nous sommes des humains. Nous allons tous commettre des péchés. Mais dès que nous commettons un péché, le Saint-Esprit t'interpelle. Ce n'est pas le moment de le fuir. De fuir le culte. De fuir l'église. Et dit Seigneur, je donne en même temps pardon. Tu n'as pas sans Jésus. Tu continues ton chemin. Pardon. En 2014, malgré que c'était une année de difficulté, Dieu a fait des miracles. Alors, ce que Dieu me dit sur 2015 là, c'est que ça va être terrible. Il mettra la différence entre ceux qui le servent, ceux qui sont en communion avec lui et les autres. Si maintenant quelqu'un est tellement bête qui ne veut pas rester en communion avec le Saint-Esprit, il n'a qu'à rester là où il veut. Mais il n'aura rien.
Cette année est une année de grâce. On recevra les choses par la grâce. Mais vous devez demeurer dans la grâce. Et dans la grâce, on obéit au Dieu de la grâce. Afin qu'il puisse nous faire grâce. Ne l'oubliez pas, c'est l'année de la communion avec le Saint-Esprit. Communion avec lui. Et vous allez voir ce qui va dérouler devant vous. Que Dieu vous bénisse.
Lui wa de yo do chite logo se club Jésus pour réussir ton de yino yito kan jiro si sin po do pi pa po de no blo do akulu no zangbe gba dando te we meyon ene asene no biti akako nyawulia club Jésus pour réussir et le saint rita si ha meton manan do sans si do nu de yo do mrs owe agosin lo bo ko igbe fifa di vele a ki ha me aton god wa do si to we ko le yo anamo si ko da ko de so awon ti vele bo si bo wewe de fi ne wa ye de e no zo lo bo yo la ye a 94 97 07 07. Allo 96 98 36 36 et kana chelwe Jésus ni de 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 Jésus